Chapitre 25. Les homélies de l'excellent Boudignot. La mutuelle crainte de se perdre les rapprocha. Ils recommencèrent encore à s'aimer, mais ce fut pour retomber dès le lendemain dans les alternatives de courtes joies et de longues souffrances, de colères et de faiblesses, de ruptures et de rapprochements. Au reste, ce qui se passa entre eux, je ne le sais que vaguement. Jacques, ne me pardonnant pas tout ce qu'il m'avait dit de Caroline, évitait de me voir, et plus tard il a gardé un silence absolu sur cette époque de sa vie. Pour moi, pour Eugénie, pour tous ceux qui connaissaient et aimaient Jacques, c'en était fait de lui, et nous avions la triste conviction que, dans cette liaison, il devait s'absorber de plus en plus et fatalement, un jour ou l'autre, s'éteindre. Les choses en étaient là lorsqu'un jour je reçus la visite de Marais. Il commença par s'asseoir, souffler et ne pas dire un mot. Puis, après au moins un quart d'heure de repos,
« Vous devez comprendre, n'est-ce pas ? »
dit-il lentement,
« que je n'ai pas monté vos 5 étages pour le seul plaisir de l'ascension. » Je voulais vous charger d'une commission dont je me suis chargé moi-même. Remettez cette lettre à Jacques de la part de Madame Chaise-Martin.
Qu'y a-t-il donc ?
Il paraît qu'il se quitte.
Comment ? Pourquoi ?
Oh, mon ami, tout ça c'est bien long. Est-ce que vous tenez beaucoup à ce que je vous le raconte ?
Si, j'y tiens.
« Bon, ne vous emportez pas. Si vous le voulez absolument, moi, je le veux bien aussi. Seulement, je vous le répète, c'est très long. Ce matin, Madame Chaise-Martin est venue me trouver. Elle m'a annoncé que la vie avec Jacques était impossible, qu'ils souffraient trop tous les deux, et qu'il fallait en finir. Les raisons qu'elle m'a données, je ne vous les répéterai point, n'est-ce pas ? C'est inutile. D'ailleurs, sa détermination ne doit pas précisément vous désoler.
Elle m'effraie si elle n'est pas sincère. Elle m'effraie encore plus si elle l'est. Car, dans l'état de faiblesse où Jacques est tombé, ce que peut-être il y avait encore de meilleur, c'était à elle de l'aimer quand même et de mourir avec lui.
Mourir, comme vous y allez. Enfin, ceci ne me regarde pas. Ne nous embarquons point dans d'interminables réflexions. Après de très longues explications, Madame Chaise-Martin m'a prié de remettre cette lettre à Jacques. Je me suis défendu, puis j'ai fini par me résigner. Mais depuis, j'ai réfléchi que vous étiez son ami beaucoup plus que moi, et je vous apporte la lettre. La voici. Je crains les luttes et les cris, et vous savez que j'aime fort la tranquillité.
Je voulus me défendre aussi. Puis, réfléchissant qu'après tout mieux valait mon amitié que l'apathie de Marais, je pris la lettre.
Ah! À propos,
fit-il,
j'oubliais un des points les plus importants de ma mission. Quand irez-vous chez Jacques ?
Tout de suite.
Bien, je reviendrai ce soir. J'ai promis à Madame Chaise-Martin de lui écrire. Vous me direz comment les choses se sont passées. Elle paraissait fort inquiète.
Quand j'annonçai à Jacques que j'avais une lettre à lui remettre, et que cette lettre était de Caroline, il me l'arracha des mains plutôt qu'il ne me la prit. Je m'attendais à une de ces explosions de douleur, comme j'en avais tant vu, mais après quelques minutes de silence, pendant lesquelles il pâlit horriblement,
« Tu sais ce qu'il y a là-dedans »
dit-il d'une voix saccadée.
« Elle me quitte, elle s'en va. C'est elle qui me donne congé. Elle était trop malheureuse. »
Toute la journée, je restais près de lui, espérant qu'il allait y avoir une détente dans son indifférence factice, dans son courage voulu, mais, toutes les fois que j'essayais de parler de Caroline, il me ferma la bouche.
« Elle est morte !»
me disait-il.
« N'en parlons plus. Je suis libre. N'est-ce pas tout ce que je pouvais souhaiter ? N'est-ce pas ce que tu désirais ?»
Je le quittais sans avoir pu lui arracher un seul mot sincère, mais, en lui prenant la main, je devinais quel était son désespoir. Cette main était mouillée de sueur et froide comme un glaçon. Le lendemain, je le trouvais pâle, défait, les yeux ardents, les paupières rouges et marbrées, les lèvres déchiquetées. Il était évident qu'il avait dû passer une nuit atroce. Il ne m'en dit pas un seul mot.
« Oh, oh !»
fit-il en me voyant.
« L'amitié qui vient consoler l'amour. C'est beau, ça. Mais tu es trop bon. J'étais tout consolé d'avance. Ne suis-je point libre ?»
Je l'emmenai déjeuner. Il but beaucoup. Je croyais que le vin allait amollir cette roideur. « Que vas-tu faire ?» lui demandai-je.
« Mais travailler, retourner à l'ambition, chercher la gloire, est-ce que ce n'est pas là toute la vie ?»«
Vas-tu rester dans ton logement ?»«
Pourquoi n'y resterai-je pas ? Après tout, n'y ai-je point été heureux ?»
Puis, d'une voix attendrie,
« Les souvenirs, je n'ai plus que ça. Ne cherche pas à me les enlever. De quoi vivrai-je ?»
Ce fut sa seule parole franche, son seul mot du cœur. Aussitôt, comme s'il le regrettait, il se jeta dans des plaisanteries froides et forcées. Qu'il voulût ou non revenir au travail, ce remède héroïque qui l'avait déjà guéri, toujours est-il qu'il ne travailla point. Il avait perdu dans ces derniers temps l'habitude du travail quotidien, et ce n'était point maintenant, anéanti moralement et physiquement comme il l'était, qu'il pouvait reprendre cette habitude si attrayante lorsqu'on la possède, si repoussante lorsqu'il faut la conquérir. Sa tête était trop fiévreuse, son âme était trop malade pour qu'il lui fût possible de s'arrêter sur une idée, pour l'étreindre, la dominer, la féconder. La première fois qu'il essaya de se replonger dans l'étude, il ne put pas aller plus loin que la rêverie. Que lui importait d'ailleurs la gloire, et que lui importait l'avenir ? C'était dans le passé qu'il vivait réfugié, et, ce passé, la rêverie le lui donnait avec de vertigineuses séductions. Il s'abandonna donc à la rêverie. Cependant, comme il fallait vivre, manger, se vêtir, se loger, et qu'il était absolument sans ressources, il accepta une de ces tâches insignifiantes qui, ne demandant ni attention ni volonté, peuvent encore donner le strict nécessaire. Tout le temps qu'il ne consacra point à cette tâche, il le passa dans les ateliers, dans les cafés, dans les brasseries, et en peu de mois il devint, pour ceux à qui il daignait répondre, un de ces critiques fins et profonds en paroles, comme on en rencontre plus d'un, et qui souvent font dire « Que n'écrit-il donc ce qu'il explique si bien ?» Nature délicate, fauchée avant d'avoir fleuri, comprend pour des esprits paresseux ou impuissants quand, au contraire, ils sont des cœurs brisés. Soit que j'eusse fâché par mes reproches, soit qu'il me regardât comme étant entré pour une part quelconque dans la décision de Caroline, il ne venait plus chez moi, et lorsque je voulais le voir, c'était au café du Coq Gaulois, ce café qui gardait quelques heureux souvenirs de ses premières amours, que je devais l'aller chercher. Là, presque tous les soirs, depuis 6 heures jusqu'à minuit, il restait assis dans un coin, fumant mélancoliquement, regardant les jeunes femmes qui venaient rejoindre leurs amants. Quand finirait ce désespoir ? Comment se terminerait-il ? Abandonné par Caroline, nous avions cru à des souffrances. Mais à une telle prostration, à un tel anéantissement, nous n'y avions même pas songé. Il était donc bien profondément atteint. Tout ressort en lui était donc brisé, toute volonté détruite, toute ambition morte. Rien ne le touchait plus, ni en bien ni en mal. Au dîner, au souper de ses amis, Maintenant, il se laissait emmener, mais il y portait son lugubre silence, ou bien, lorsqu'il avait bu, son amère gaieté, plus lugubre encore. Eugénie, qui, de la rupture avec Caroline, avait espéré tant d'heureux résultats, en était venue maintenant presque à la regretter, et plus d'une fois elle s'écria
« J'aimerais encore mieux qu'il fût près de cette femme !»
Comme nous tous, et même plus que nous, elle souffrait de voir le suicide de cette belle intelligence, mais elle avait encore une préoccupation qui, se joignant à ses chagrins, la tourmentait et l'inquiétait fort. C'était de savoir comment Jacques vivait dans son intérieur, qui lui arrangeait sa chambre, lui raccommodait son linge, le veillait lorsqu'il était malade, et sur ce point aucun de nous ne pouvait la rassurer, car aucun de nous n'était reçu par Jacques. Plusieurs fois nous avions fait des tentatives, aucune n'avait réussi. Un jour cependant, ou plutôt une nuit, passant devant sa porte à 2 heures du matin, et voyant les fenêtres de son logement éclairées, l'idée me vint d'en risquer une nouvelle. Soit que mon coup de sonnette l'eût inquiété, soit toute autre raison, il ouvrit. Et avant qu'il fût revenu de sa surprise, car assurément s'il attendait quelqu'un, ce n'était pas moi, passant devant lui, j'entrai vivement dans sa chambre. Elle était rangée avec soin. La lampe était allumée et 2 bougies brûlaient. Tout étonné, je regardai autour de moi. Je ne vis personne. Seulement sur la cheminée, j'aperçus des bouquets flétris, des gants déchirés, des brides de chapeau, des morceaux d'étoffe, un lambeau de châle. Puis, contre la glace, entre les 2 bougies, un petit portrait de Caroline. Puis encore, dans cette cheminée, un fauteuil et une table sur laquelle étaient des lettres dépliées. Une bouteille et un verre à moitié plein d'eau de vie. Je levai les yeux sur Jacques et je compris. Sans doute, il vit dans mes yeux ce qu'il y avait d'émotion et de pitié. Car lui, depuis quelque temps si peu expansif, il se jeta dans mes bras.
« Maintenant tu devines, n'est-ce pas ? »
s'écria-t-il.
« Chaque soir c'est la même chose. Quand je ne rentre pas assez abruti, voilà. »
Il montra le verre.
« Voilà mon remède. Quelquefois j'y trouve l'oubli. Quelquefois... »
fit-il avec une sorte d'enthousiasme.
« Quelquefois le rêve. Mais... toujours... »
continua-t-il avec abattement.
« Il y a un rêve horrible. Ah, pourquoi n'est-elle pas morte ? Au moins je pourrais la pleurer, et je ne la haïrais point en l'adorant. »
À partir de ce jour, nous nous revîmes plus souvent. Mais à une apathie telle que celle dans laquelle il était tombé, il fallait quelque chose de plus que les consolations de l'amitié. Ce quelque chose, ce fut Boudignot qui l'apporta, et cela à un moment où pour nous, sans espoir aucun, Jacques était irréparablement perdu. Boudignot, dès cette époque, avait déjà réalisé les promesses qu'autrefois, à la pension, si amplement il donnait, et par l'exercice continu et surtout très apparent des vertus chrétiennes, il avait su conquérir une assez belle position. Intelligent, mais pas trop, ambitieux, mais sans le laisser voir, protégé par 2 ou 3 sociétés religieuses desquelles il était membre actif et soumis, séide enthousiaste de tout pieux personnage qui, ayant une influence quelconque, en usait pour autrui, il était en passe de faire son chemin et incidemment son salut. Cependant, une chose manquait à son bonheur. On n'avait point encore pu le marier, pas une seule fille, jeune ou vieille, n'avait voulu de ce gros petit bonhomme, et malgré les efforts de ses influents preneurs, toutes avaient été découragées et repoussées par cette face grasse et blême, par cette démarche humblement tortueuse, par cette apparence vigoureuse et maladive tout à la fois. Ses échecs réitérés étaient son éternel supplice, son boulet, sa croix, comme il disait lui-même. Quand il rencontra Jacques, il en était arrivé au désespoir, et il ne comptait plus que sur un miracle ou sur un service éclatant qu'il rendrait à la cause et qui lui permettrait d'exiger sans qu'on pût le refuser. Lorsqu'il apprit l'histoire de Jacques, il reprit quelque espérance et sur les malheurs de son ancien camarade, il pensa à établir de nouvelles intrigues matrimoniales, qu'il convertit un écrivain qui venait avec un certain bruit de servir la Révolution et la Liberté, et assurément, pour prix de cette victoire, on lui accorderait enfin une de ces jeunes et riches orphelines qu'on ne pourrait légalement garder au couvent. Il entreprit donc cette conversion avec une dévote ardeur. Fort habilement, il se fit le confident de Jacques, il l'écouta, il vint le voir presque chaque jour, il l'emmena avec lui, puis, lorsque par des chemins détournés il se crut arrivé assez près du but, il commença à l'entretenir de son sujet, et bientôt il put en parler quand il voulut et autant qu'il voulut.
« Mon Dieu !»
répétait-il à Jacques.
« Ce que je voudrais, moi, mon pauvre ami, ce serait que tu soumisses ton esprit au doux joug du Seigneur et qu'avec humilité tu reconnusses la puissance de la foi. De ce fumier où tu croupis, tu t'élancerais guéri. Dans l'état épouvantable et scandaleux où t'ont plongé les dérèglements d'une passion criminelle, ce qui peut t'arracher au souvenir de la chair, c'est quelque chose de solide, d'immuable, à quoi tu puisses te cramponner, sur quoi tu puisses t'établir, qui pose un baume sur tes blessures, qui te mette au cœur l'espérance, qui te permette de recommencer une vie nouvelle en lui donnant une sainte direction. Où trouveras-tu cela ? Si ce n'est dans la foi, jusqu'à ce jour tu t'es plongé dans les ivresses de la science humaine, où cela t'a-t-il conduit? Quel refuge, quels asiles y as-tu trouvé dans les jours de lutte? Ah, mon ami, apprends enfin à mépriser cet orgueil de l'esprit. Laisse-toi arracher à ce pernicieux plaisir qu'il donne, à jucunditate pestifera, comme disait saint Augustin. Ce sont des viandes dangereuses, comme le dit encore ce bienheureux évêque, que l'on sert sur de beaux plats, mais ces viandes, au lieu de nourrir le cœur, le vide. Tu en es là, toi. Où iras-tu maintenant ?
Boudignot recommença ses homélies, non pas une, 10, mais 20, mais 100 fois. Un jour, il entra en discussion. Un mois après, il décidait Jacques à venir chez le père Labutte. Mais le père Labutte n'était nullement l'homme que les conversations de Boudignot pouvaient faire supposer, car de lui, Boudignot avait parlé comme il parlait de tout, avec cette emphase maladroite qui tue ou qui compromet ce qu'elle effleure. C'était un petit vieillard fin, délié, intelligent, qui tout de suite comprit, initié qu'il était déjà par Boudignot, à qui il avait affaire.
« Mon enfant, dit-il à Jacques, « je ne vous parlerai point, comme peut-être l'a fait un peu brusquement l'excellent monsieur Boudignot. Des ineffables consolations que vous pourriez trouver dans notre sainte religion. Par malheur, je ne crois point que des considérations purement spirituelles puissent maintenant germer dans votre âme desséchée et y fructifier, car, moi aussi, je sais ce que c'est que les passions. Dans l'état présent, ce qu'il vous faut, c'est le calme, c'est la possibilité de réfléchir, de revenir sur vous-même, de sonder votre cœur, de faire un bon examen de conscience qui vous montre l'inanité des principes sur lesquels vous vous êtes appuyé, des jouissances auxquelles vous avez sacrifié. Ce calme, ce n'est que loin du monde que vous le trouverez. »
Le refuge loin du monde que finalement le père Labutte proposa, ce fut à Bouchard, dans la Somme, auprès du père Chevillotte, qui serait heureux d'offrir ses conseils et sa maison à une âme blessée. Cela, d'ailleurs, n'engageait Jacques à rien, et sa retraite finie, si par malheur il n'était point touché de la grâce, il pourrait s'en aller comme il était venu. Jacques était dans la situation d'un homme qui, tombé à l'eau, se cramponne convulsivement à un fétu flottant près de lui. Il avait essayé de tout et se sentait perdu. Il accepta et écrivit au père Chevillotte une lettre dans laquelle il exposait son état et demandait asile pour quelques jours, pour quelques mois peut-être. C'était assez indifféremment qu'il avait écrit cette lettre. Ce fut très impatiemment qu'il attendit la réponse. Par la réflexion, il s'était enthousiasmé pour cette idée nouvelle. S'il allait pouvoir oublier, s'il allait pouvoir guérir. Il ne parla plus que du père Chevillotte. Il ne pensa plus qu'au calme, qu'à la paix, qu'à la certitude. Il avait retrouvé une espérance, une volonté, un but. Par malheur, la réponse se fit attendre, et il retomba bientôt dans ses alternatives de fièvre et d'abattement, puis bientôt aussi dans son apathie, et, découragé, il retourna à son ancienne vie, à ses malsaines distractions. Un soir qu'il s'était ainsi laissé entraîner à un souper, deux de ses amis, ennuyés de le voir toujours lugubre et sombre, voulurent essayer de le distraire, et en même temps aussi, il faut le dire, de se distraire eux-mêmes par la comédie qu'ils allaient se donner. D'après leurs instructions, une grande et superbe fille, qu'on appelait Bérénice, vint s'asseoir près de lui. C'était une Normande de 19 ans à peine, qui, de son pays, avait conservé une merveilleuse fraîcheur de chair et qui, de Paris, avait pris tout ce qu'on peut prendre de corruption. Elle avait ce qui est rare dans son métier, de l'esprit et de la finesse. Elle força Jacques à causer, elle le força aussi à boire, et surtout à le regarder. Au bout d'une heure, il avait les yeux troubles, son cœur était gonflé, dans ses veines son sang courait bouillonnant et picotant. Quand on se sépara, elle le fit monter dans sa voiture et l'emmena chez elle.
« Pauvre garçon, »
dit-elle en se faisant prendre les mains,
« vous avez des chagrins d'amour ? Vous me les conterez. Je vous conterai ce que j'ai eu. Nous pleurerons ensemble. Ça fait du bien de pleurer quelquefois. Ah, j'ai été bien malheureuse. Allez. Mais, vous voyez, j'ai trouvé le moyen de me guérir. »
Disant cela, elle lui souriait doucement et attacha sur lui un regard ardent et languissant qui n'avait pas besoin de commentaires. Puis, le laissant seul, elle passa dans une pièce voisine. Jacques resta un moment immobile. Il brûlait et il avait froid. Son cœur battait avec violence. Cependant, ne rencontrant plus les regards de Bérénice, n'écoutant plus sa voix, ne respirant plus son haleine, il eut honte de lui et voulut sortir. Il ouvrait déjà la porte quand Bérénice parut. Elle venait de faire une de ces toilettes de qui Madame Docteur Barry disait
« Il n'y a que le nu qui habille bien. »
Et elle était splendide.
« Et quoi ? »
fit-elle tout interdite, en voyant Jacques sur le pas de la porte.
« Vous avez près de vous, » dit-il, « un malheureux qui ne saurait guérir comme vous avez guéri. »
Bérénice demeura un moment stupéfaite, mais presque aussitôt, elle éclata de rire, et se tournant vers sa bonne, qui curieusement avançait la tête,
« Regarde, monsieur, ma fille, regarde-le »
s'écria-t-elle,
« et tu auras vu un joli serin. »
Jacques entendit à peine cette explosion de dépit, ou tout au moins d'amour-propre offensé. Il était déjà dans l'escalier.
« Allons, » se dit-il, « si le père Chevillotte ne veut pas de moi, la mort en voudra bien. »